Alors aujourd'hui, je vais vous lire la manifestation supramentale de Sri Aurobindo, la perfection du corps. C'est le premier chapitre. Inclure la vie et la matière dans ce qui est essentiellement une recherche spirituelle au lieu de les rejeter est en fin de compte de les exclure comme le faisait la spiritualité qui repoussait la vie du monde ou lui tourner le dos, implique certaines innovations que les institutions spirituelles du vieux genre considéraient comme étrangères à leur but. Mais une vie divine dans le monde ou une institution ayant ce but ne peut pas rester complètement en dehors de la vie ni fermée aux hommes ordinaires du monde, ni indifférente à l'existence mondaine. Elle doit faire le travail du divin dans le monde et non quelque travail en dehors du monde ou séparé de lui. La vie des anciens rishis dans leur ashram était reliée au monde extérieur. Les rishis étaient des créateurs, des éducateurs, des guides pour les hommes. Et la vie du peuple indien dans l'Antiquité s'en est en grande partie développée sous leur direction et par leur influence formatrice. Certes, la vie et les activités incluses dans l'entreprise nouvelle ne seront pas du même ordre, mais elles doivent avoir une action sur le monde, être une création nouvelle au sein du monde. La nouvelle entreprise doit avoir un contact, des liens avec l'extérieur et les activités qui s'inscrivent dans la vie générale. Et il est bien possible que ces objectifs initiaux immédiats ne semblent pas très différents de ceux des activités du même genre dans le monde extérieur. Ici, dans notre ashram, nous avons jugé nécessaire d'ouvrir une école pour les enfants des disciples résidents et l'on y enseigne suivant les principes familiers, avec une certaine différence et en donnant une place, même une place très importante, à l'entraînement physique intensif des enfants, ce qui a donné naissance au sport et à l'athlétisme tels qu'ils sont pratiqués par la jeunesse de l'ashram dont ce bulletin est l'expression. Si nous admettons des activités comme les sports et les exercices physiques dans la vie de l'ashram, il est évident que les méthodes et les buts immédiats à atteindre doivent relever de ce que nous avons appelé le bout inférieur de l'être. Cependant, même dans le cadre de ces frontières humaines, ce que l'on peut obtenir est déjà très considérable, parfois immense. Ce que nous appelons le génie fait partie du développement des régions humaines de notre être et ses réalisations, surtout dans le domaine de la pensée et de la volonté, peuvent nous conduire à mi-chemin du divin. Le corps de l'homme, autant que son mental et son énergie vitale, est capable de répondre sans fléchir et avec ténacité à ce que l'on peut exiger de lui dans les circonstances les plus difficiles et les plus éprouvantes, telles les nécessités de la guerre, les voyages, l'aventure. Son endurance peut être poussée à un degré surprenant, mais l'inconscient dans le corps semble être capable de répondre d'une façon étonnante. Le corps est une création de l'inconscient, nous l'avons dit, et il est lui-même inconscient ou en tout cas subconscient en certaines de ses parties et dans la plupart de ses fonctionnements cachés. Mais ce que nous appelons l'inconscient est une apparence, c'est la demeure ou l'instrument d'une conscience secrète ou d'un supraconscient qui a créé ce miracle que nous appelons l'univers. La matière est le champ d'action et de création de l'inconscient. Mais la perfection des opérations de cette matière inconsciente, leur adaptation parfaite des moyens à un dessein et à une fin. Les merveilles qu'elles accomplissent et les splendeurs de beauté qu'elles créent témoignent, en dépit de tous les démentis ignorants, que nous pouvons opposer de la présence et du pouvoir de conscience d'une supraconscience en chaque partie et chaque mouvement de l'univers matériel. Elle est là, dans le corps, c'est elle qui l'a bâtie, et c'est son émergence dans notre conscience qui est le but secret de l'évolution et la clé du mystère de notre existence. Les sports et les exercices physiques destinés à l'éducation individuelle des enfants et de la première jeunesse devraient avoir pour but d'amener à la surface leurs possibilités présentes et latentes et de porter ces possibilités à leur degré le plus complet. Mais les moyens et les méthodes que nous devons utiliser sont limités par la nature même du corps et leurs objectifs doivent être la perfection humaine relative des pouvoirs et des facultés du corps, y compris les pouvoirs mentaux de volonté, de caractère et d'action dont le corps est à la fois la demeure et l'instrument dans toute la mesure et ses méthodes peuvent aider à leur développement. J'ai suffisamment parlé de l'aspect de perfection mentale et morale que ces exercices peuvent contribuer à créer et je n'ai pas besoin d'y revenir ici. En ce qui concerne le corps à proprement parler, les perfections que l'on peut former par ces moyens visent d'abord ses qualités et ses capacités naturelles, ensuite son aptitude générale à servir d'instrument à toutes les opérations que peuvent exiger de lui le mental, la volonté, l'énergie vitale et les perceptions, impulsions et instincts dynamiques de notre physique subtile. Alors il y a un nota bene, c'est note de l'éditeur, à chacun des plans de conscience qui s'échelonnent de la matière aux hauteurs suprêmes de l'esprit correspond un être en nous ou un corps qui nous relie à ce plan. Le physique subtil est le degré immédiatement adjacent à notre monde physique et nous avons un corps subtil, Sukshma Sharira, dont Sri Aurobindo reparlera plus loin, qui correspond à ce plan et qui forme une sorte d'enveloppe autour de nous, dotée de divers centres en rapport avec les divers degrés de conscience et d'énergie cosmique et spirituelle. Ce corps subtil est capable de recevoir des énergies d'une autre nature que l'énergie matérielle, de voyager loin du corps physique, de percevoir des choses qui échappent au sens matériel et d'agir à distance directement sur des personnes ou des faits apparemment lointains. Tous nos contacts avec le monde extérieur passent par ce corps subtil, qui nous protège en même temps des contacts indésirables ou des forces de maladie s'il est en bon état. Voilà. Alors, je continue. La santé et la force sont les premières conditions de la perfection naturelle du corps. Non seulement la force musculaire, la solidité des membres et la trempe physique, mais la force plus fine, plus éveillée, plus plastique, adaptable, que les parties nerveuses et le physique subtil peuvent apporter aux activités de l'organisme. Il existe également une force dynamique encore que l'on peut introduire dans le corps en faisant appel aux énergies vitales et qui peut l'instiguer à des activités plus larges, même au fait d'un caractère très extraordinaire dont il serait incapable à son état normal. Enfin, il existe l'énergie que le mental et la volonté peuvent communiquer au corps ou lui imposer en maître ou inspirateur par leurs exigences ou leurs stimulations et par leur pouvoir secret que nous utilisons ou qui nous utilise sans très bien connaître la source de leur action. Parmi les qualités et les pouvoirs naturels du corps, qu'il est ainsi possible d'éveiller, de stimuler et d'entraîner à une action normale, nous pouvons compter l'adresse et la stabilité dans les activités physiques de toutes sortes, telles la rapidité de la course, la dextérité du combat, l'habileté et l'endurance du montagnard, la fermeté des réflexes souvent extraordinaires, avec laquelle répondent le corps du soldat, le marin, le voyageur, l'explorateur, à tout ce que l'on peut exiger d'eux, comme je l'ai déjà signalé, ou dans les aventures de toutes sortes. Puis, la vaste gamme des réalisations physiques à laquelle l'homme s'est habitué ou est exceptionnellement poussé par sa propre volonté ou sous le contrainte des circonstances. Une aptitude général du corps à exécuter tout ce qu'on peut lui demander, telle est la formule commune de tous ses accomplissements. Cette aptitude acquise par quelques-uns et même un grand nombre pourrait être généralisée par une éducation et une discipline physique élargie et diversifiée. Certaines de ces activités peuvent être incluses parmi les sports. Pour d'autres, les sports et exercices physiques servent de préparation efficace. Certaines exigent un entraînement à une action commune, un mouvement concerté, une discipline, et les exercices physiques que nous pratiquons ici peuvent nous y préparer. D'autres demandent plutôt une volonté individuelle, développer une habileté mentale, des perceptions rapides, une puissance dans l'énergie vitale et des impulsions du physique subtil, et elles peuvent même être l'unique éducateur nécessaire. Tout doit être inclus dans notre conception des pouvoirs naturels du corps, de ses facultés, de ses aptitudes à servir d'instrument à la pensée et à la volonté humaine, et donc être inclus dans notre conception de la perfection totale du corps. Cette perfection repose sur deux conditions. Un éveil aussi total que possible de la conscience corporelle et une éducation, ou plutôt une évocation de ses possibilités, également aussi totale et complète que possible, et si l'on peut aussi diversifier que possible. Au sein de toutes les formes de ce monde, une force agit. Dans ses formations inférieures, elle agit inconsciemment, où elle est étouffée par l'inertie. Mais dans l'être humain, elle est immédiatement consciente et ses potentialités sont en partie éveillées, en partie assoupies ou latentes. Ce qui est éveillé, nous devons le rendre pleinement conscient. Certains d'autres mouvements sont enseignés et formés par le mental, mais peuvent continuer à opérer automatiquement, sans erreur, même lorsque la pensée ou la volonté n'interviennent pas. D'autres mouvements encore peuvent opérer dans le sommeil et produire des résultats précieux pour la conscience de veille. Alors je vais terminer. Mais le plus important est ce que nous pourrions appeler un automatisme éduqué acquis, une habileté et une aptitude perfectionnée de l'œil, de l'oreille, des mains et des membres, répondant vite à tout appel, une spontanéité acquise dans le fonctionnement de l'instrument, une aptitude complète à exécuter tout ce que le mental ou l'énergie vitale peuvent exiger. Tel est généralement le sommet de ce que nous pouvons atteindre par le bout inférieur de notre être quand nous partons de ce niveau et nous nous limitons à ses moyens et à ses méthodes. Pour obtenir davantage, il faut faire appel au mental et à l'énergie vitale à proprement parler ou à l'énergie de l'esprit et découvrir ce qu'ils peuvent faire pour la perfection supérieure du corps. Tout ce que nous pouvons accomplir sur le plan physique et par les moyens physiques est nécessairement fragile et circonscrit à certaines limites, Même une santé et une force physique apparemment parfaites sont précaires et peuvent s'effondrer à n'importe quel moment sous les fluctuations intérieures ou sous une forte attaque ou un choc extérieur. C'est seulement en brisant nos limites que nous pouvons parvenir à une perfection plus haute et plus durable. Le mental est l'homme par excellence. L'homme est un être mental et plus il correspond à la description de l'Upanishad, d'un être mental ou Purusha qui est le conducteur de la vie et du corps, plus sa perfection humaine grandit. Si le mental peut prendre en main et maîtriser les instincts et les automatismes de l'énergie vitale, de la conscience physique subtile et du corps, s'il peut s'y initier, les utiliser consciemment et pourrions-nous dire mentaliser complètement leur fonctionnement instinctif et spontané, la perfection de ces énergies, leur fonctionnement aussi devient tout de suite plus éveillé, plus conscient, plus parfait. Mais il est nécessaire que le mental lui-même grandisse en perfection. Or, il n'y réussit vraiment que quand il est moins dépendant de l'intellect faillible, du mental physique. quand il n'est plus limité, fût-ce par le jeu ordonné et précis de la raison, et qu'il peut croître en intuition, acquérir une vision plus large, plus profonde, plus directe, et obtenir à la poussée plus lumineuse de l'énergie d'une volonté intuitive. Alors, je continuerai la prochaine fois et je vais arrêter aujourd'hui la perfection du corps de la manifestation supramentale de Shobindo, traduit de l'anglais par Mère. Je dépose cette lecture aux pieds de Shobindo et de Douce Mère. Merci Shobindo. Merci Mère.